Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de vous joindre à nous sur Radio Kapi. Des cas de maladie à virus Ebola continuent d'être enregistrés en RDC malgré les efforts déployés dans la riposte. Face à la propagation de rumeurs et à la résistance de certains membres de la communauté, une approche communautaire s'avère indispensable, conseille certains humanitaires. En Ituri, les acteurs de la société civile attirent l'attention des autorités nationales sur l'urgence de renforcer la sécurité dans les territoires de Djougou. Cette alerte intervient au lendemain des embuscades contre des véhicules Adera sur la nationale numéro 27. En République démocratique du Congo, les gestionnaires d'écoles affûtent leurs armes pour préparer la rentrée des classes. Dans ce journal de midi, nous serons à Kindu avec Mgr Zachary Massimango Katanda, évêque de l'église anglicane de Kindu, qui nous parlera des stratégies arrêtées au niveau de son diocèse. C'est lui notre invité. Comme annoncé au sommaire, en RDC, malgré des avancées significatives dans la lutte contre Ebola, la riposte continue de s'heurter à plusieurs obstacles sur le terrain. Parmi eux, la propagation de fausses rumeurs, le refus du suivi des contacts et la persistance d'enterrements non sécurisés au sein des communautés. Dans un rapport récemment publié, le Conseil national de forum des ONG humanitaires de la RDC, CONAFOD RDC, estime que la réponse doit davantage s'appuyer sur les acteurs locaux. L'organisation propose la création d'une action locale de lutte contre Ebola, un mécanisme destiné à financer directement les structures communautaires. Les détails avec Rosalie Zawadi.
Pour les acteurs humanitaires locaux, les progrès médicaux réalisés dans la lutte contre Ebola ne suffisent pas à eux seuls à éliminer la maladie. Sur le terrain, les communautés restent parfois méfiantes face aux mesures sanitaires, ce qui complique les efforts des ripostes. Selon les CONAFOD RDC, les ONG locales, les réseaux des survivants ainsi que les associations des femmes et des jeunes jouent pourtant un rôle essentiel. Souvent présents avant même l'arrivée des grands programmes internationaux, ces acteurs continuent également d'accompagner les populations après les crises. Cependant, leur action est freinée par un manque de moyens financiers. Pour remédier à ces situations, les CONAFOD RDC proposent la mise en place d'une action locale des luttes contre Ebola afin de permettre aux acteurs de proximité d'accéder directement et rapidement au financement. Grâce à leur présence permanente au sein des communautés, elles peuvent détecter plus rapidement les alertes et renforcer la confiance nécessaire à l'adhésion des populations aux mesures de prévention. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Merci Rosalie Zawadi. Nous quittons Goma pour la province d'Ikwilu où plus de 140 personnes sont mortes du paludisme en 6 mois. C'est la révélation du ministre provincial de la Santé, Robert Dinsodi, précise qu'au total, 387 874 cas ont été enregistrés, dont 146 décès. Selon lui, la maladie touche les 24 régions de santé de la province d'Ikwilu. Il rappelle également que le paludisme n'est pas une maladie nouvelle dans la région. Le point avec Lievin Mbwinga.
Selon le ministre provincial, le paludisme n'épargne pas les gens. Toutes les 24 zones de santé sont touchées. Il y a un véritable problème de maladie, que ce soit au stade grave ou simple, a-t-il déclaré. La dernière menace du paludisme au Kwilu est celle signalée au village Mukulubiala, dans le territoire de Bulungu, en juin dernier. Une dizaine de personnes ont perdu la vie après avoir manifesté de la fièvre, des douleurs abdominales et des vomissements. Robert Dinsodi annonce enfin que la situation est contenue et que plus aucun nouveau cas ni décès n'est enregistré après le déploiement des équipes pour la prise en charge. Au total, 72 cas ont été enregistrés dans ce village contre 15 décès, dont 8 femmes et 7 hommes. 5 échantillons d'eau, 30 de sang et 28 de sel ont été prélevés, a indiqué le ministre. Les nouveaux résultats sont attendus de l'Institut national de recherche biomédicale.
De nombreux véhicules de transport en commun sont tombés le week-end dans des embuscades tendues par des hommes armés de la milice Union de Révolutionnaires pour la Défense du Peuple Congolais, IRDPC, Barkodeko, au niveau du village d'Era, sur la route nationale numéro 27 dans les territoires de Djougou. Selon des sources sécuritaires, les assaillants ont dépouillé les passagers de leurs biens et des sommes importantes d'argent. 3 personnes ont également été prises en otage avant d'être relâchées après les paiements d'une rançon. Les acteurs locaux de la société civile redoutent une reprise des violences dans cette partie de la province après plusieurs mois d'accalmie. Martial Kizabiamungu pour les détails.
Selon des sources sécuritaires et coutumières, un groupe d'hommes armés présumés appartenir à la milice IRDPC Barkodeko en provenance du village de Lobou a érigé sans dit une barrière sur la route nationale numéro 27 à hauteur du village de Deira dans les territoires du Djougou. Un camion à provenance de Mahagui est tombé dans cette embuscade. Les assaillants auraient ouvert le feu pour immobiliser le véhicule avant de dépouiller le membre de l'équipage de leur téléphone, leurs effets personnels et d'une importante somme d'argent. Le lendemain, dimanche, trois autres véhicules de transport en commun assurant la liaison Bunia-Mahagui ont été attaqués au même endroit. Selon les mêmes sources, les passagers ont été dépouillés de leurs biens sous la menace des armes. L'un d'eux a été blessé par balle. Trois autres personnes ont été enlevées et conduites dans la forêt de Lobou. Grâce à une médiation menée par des chefs coutumiers locaux, les otages ont été libérés lundi matin après les paiement d'une ration estimée à $600 américains, selon plusieurs sources locales. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Merci Martial Kizabiamungu. Nous quittons l'Ituri en empruntant la nationale numéro 4 pour Beni, où les cris des victimes du Congo CVS, une organisation indépendante de défense des droits humains, exprime sa vive inquiétude face à la recrudescence des attaques armées, des tueries des civils et des incursions attribuées notamment aux ADF dans la ville de Beni et ses environs. Dans un communiqué publié dimanche, l'organisation estime que cette situation met gravement en péril la vie, la sécurité et les droits fondamentaux des populations civiles. Son coordinateur Espoir Sadiki Chemukoya appelle les autorités à renforcer la protection des civils et réclame l'ouverture d'une enquête indépendante sur les récentes violences. Il est au téléphone de Martial Papimukeba.
Plusieurs témoignages recueillis auprès des habitants et d'autres sources font état des préoccupations concernant le fonctionnement du dispositif de sécurité dans la ville. Certaines informations évoquent d'éventuelles défaillances. Ces allégations doivent faire l'objet d'enquêtes indépendantes, impartiales et transparentes afin d'établir les faits et de déterminer la responsabilité éventuelle. Le cri des victimes demande notamment l'ouverture immédiate des enquêtes indépendantes sur les récentes attaques dans la ville de Beni et ses environs. Cri des victimes appelle également la communauté internationale à accompagner les efforts visant à établir la vérité, garantir la justice et prévenir de nouvelles violations des droits humains. La protection des civils constitue une obligation fondamentale des autorités publiques.
Nous n'avons pas pu obtenir pour l'instant la réaction des responsables des FRDC dans la région des Beni. De Beni à Kindu, la situation sécuritaire des maires préoccupante dans les territoires des Kabambaré, nous restons dans le Maniema. Selon les informations à notre possession, les hommes du général autoproclamé Mayaya en provenance des Nyunzu ont effectué une incursion le week-end dernier avec, des armes dans cette entité. Des affrontements ont causé des victimes, mais aussi des blessés ainsi que des pillages entraînant les déplacements de nombreux habitants vers des zones non jugées sécurisées. Face à cette dégradation de la situation, le député national Emedi Amourik Xavier Todos a saisi l'Assemblée nationale à travers une motion d'information. Il appelle les autorités à une intervention urgente afin de mettre fin aux hostilités et de rétablir la sécurité dans la région. On écoute Emedi Amourik Xavier Todos, joint par Florence Kizalunga.
L'objectif de cette démarche est que la chambre basse, c'est-à-dire la plénière, en décide d'adopter une résolution ou que le bureau en informe certains ministres, c'est-à-dire les ministres ayant les attributions par rapport à cet événement. Je vous cite, entre autres, il y a le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires humanitaires, puissent intervenir pour qu'il y ait cessation d'hostilité. Parce que dès qu'il y a affrontement quelque part, il y a mort d'homme et surtout que nos Semayaya et ses troupes ont incendié, ils ont détruit, ils ont pillé tous les biens. Et quand il y a crépitement de balles, la population ne pouvait pas rester. Elle s'est enfuie, elle est dans la brousse. Il y en a une partie qui s'est dirigée vers le Sud Kivu. Une autre partie a fait la route au Kalemi. Et ceux d'autres ont retourné vers Kabambare Centre. Ah, comprenez, nous avons voulu dénoncer cet aspect des choses et nous allons les suivre afin qu'on puisse réellement mettre hors état de nuire la population de Kabambare qui souffre tant. Selon leur objectif, ils veulent annexer certaines terres à d'autres provinces, c'est-à-dire la province de Tanganyika et la province de Sud Kivu. Or, ces terres-là, ce sont les terres du territoire de Kabambare.
Il est 13h passé des 10 minutes à Lubumbashi. La police nationale congolaise appelle les sociétés privées de sécurité à travailler dans le strict respect de la loi. Au cours d'une rencontre tenue dimanche à Lubumbashi avec le responsable des sociétés de gardiennage, le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga leur a rappelé les cadres légaux régissant les activités des sociétés privées de sécurité en RDC. En outre, le général Blaise Kalimbalimba a souligné que ces sociétés de sécurité sont interdites notamment d'effectuer des patrouilles sur la voie publique ou de détenir ou d'utiliser les armes à feu. D'amples détails avec vous, Paulin Munanga.
Le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga rappelle en outre que la loi interdit à ces sociétés privées de sécurité d'arborer des tenues ou insignes prêtant à confusion avec celles des FARDC ou de la police, d'utiliser des gyrophares, des sirènes ou tout autre dispositif de signalisation réservé aux services de défense et de sécurité. Il est aussi interdit à ces sociétés de participer aux opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre public, de se mixer dans les conflits politiques ou sociaux. Cependant, le général Blaise Kalimbalimba, commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, reconnaît que les méthodes de travail de ces sociétés privées de sécurité s'apparentent à celles de la police.
C'est presque ce que fait la police, ce que vous faites aussi. Mais l'usage des détecteurs de métaux et tout ce qu'on a, les caméras de surveillance, les ceci, cela, tout, c'est aussi nos méthodes de travail. Donc nous sommes presque intimement liés. C'est un travail de responsabilité. C'est une charge. Ça demande une étude d'évaluation au quotidien.
Le commissaire provincial de la police a mentionné aussi que la sécurité demeure une mission régalienne de l'État et que les sociétés privées de gardiennage ne peuvent agir que dans les limites fixées par la loi. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
La peur refait surface au quartier Masengu Kanyinda dans la commune de Dioulou en Mbujimayi. Après plusieurs mois d'accalmie, les jeunes délinquants communément appelés Zabalo ont repris leurs activités. À la tombée de la nuit, ils s'en prennent aux passants, particulièrement aux femmes revenant du marché, pour leur arracher sacs, téléphones et autres biens. Face à cette recrudescence de l'insécurité, le maire de la ville promet des enquêtes afin d'identifier les auteurs. Les explications avec Esther Ndalafina.
L'inquiétude gagne de nouveau le quartier Masengu Kanyinda dans la commune de Dioulou en Mbujimayi. Les habitants dénoncent le retour des abalos, ces groupes de jeunes délinquants connus pour leurs actes de vol et d'intimidation. Selon plusieurs témoignages, ces jeunes, souvent sous l'emprise des stupéfiants, occupent certaines rues dès la tombée de la nuit. Ils ciblent principalement les femmes et les jeunes filles revenant du marché, mais aussi les personnes âgées et tout passant porteurs d'objets de valeur. Le week-end dernier, une femme a été dépouillée de son sac alors qu'elle rentrait chez elle. À l'intérieur se trouvaient notamment les clés de sa maison, un incident qui a renforcé le sentiment d'insécurité dans le quartier. Réagissant à cette situation, le maire de Mbujimayi, Jean-Marie Lutumba, invite les victimes à dénoncer systématiquement ces actes auprès des services compétents afin de faciliter les enquêtes. Il assure qu'il va s'impliquer personnellement pour faire toute la lumière sur ces agressions et retrouver les auteurs. Il y a quelques mois, une opération policière avait permis de réduire considérablement ce phénomène grâce à l'arrestation de plusieurs présumés chefs de ces groupes. Aujourd'hui, les habitants craignent toutefois une nouvelle montée de la criminalité si des mesures ne sont pas rapidement prises. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Merci Esther Ndalafina. Une locomotive de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, SNCC, immatriculée 1384, a pris feu dimanche sur l'axe Kamina-Kibula à environ 121 km de Kamina dans la province du Haut-Lomami. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le conducteur et son assistant qui filment la scène expliquent leur difficulté à maîtriser l'incendie alors que le flamme se propage à la locomotive. Contacté à ce sujet, le directeur de la SNCC à Kamina indique que l'origine du sinistre n'est pas encore connue. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l'incident. Il précise toutefois que le feu a été maîtrisé et qu'aucune perte en vie humaine ou aucune marchandise n'a été touchée. La locomotive endommagée a ensuite été remorquée jusqu'à Kamina. Nous allons quitter Kamina. C'est cette fois-ci pour nous rendre à Beni, au nord Kivu, où plus d'une centaine de ménages déplacés des familles d'Aké reçoivent depuis vendredi des semences agricoles à Lubero Centre, au chef-lieu du territoire de Lubero. Cette assistance, financée par le Fonds humanitaire de la RDC, vise à soutenir la relance des activités agricoles et à renforcer la sécurité alimentaire des populations affectées par les violences. Les précisions avec Martial Papimoukeba.
Pommes de terre, haricots, maïs, mais aussi aubergines, poireaux ou encore choux. Les semences distribuées ont été sélectionnées à l'issue d'enquêtes menées auprès des communautés locales en fait d'identifier les cultures adaptées à la région et les ménages les plus vulnérables. Pour Thierry Matsindou, chef de programme de l'organisation nationale SOPROP qui assure la mise en œuvre du projet, cette approche permet de répondre aux besoins réels des bénéficiaires.
Ce n'est pas nous qui avons ciblé, il y a des enquêtes qui ont été menée pour se rendre compte de ce qui peut pousser à Lubero. Nous avons réuni les membres des communautés. Il s'agit des bénéficiaires, mais aussi ceux qui les ont accueillis. Nous avons distribué des semences de pommes de terre, des haricots, des maïs pour les vivriers et pour les maraîchers. Nous avons distribué des aubergines, des poireaux, des choux. Nous venons améliorer l'alimentation des personnes déplacées internes et des familles hôtes.
La plupart des bénéficiaires vivent dans des familles d'accueil ou sur des sites de déplacés et restent privés d'accès à leurs champs à cause de l'insécurité. Cette assistance doit leur permettre de relancer progressivement la production agricole et de renforcer leurs moyens de subsistance. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le nouveau premier ministre britannique Andy Burhan a pris ses fonctions ce lundi, succédant à Keir Starmer qui quitte ses fonctions. Et c'était lors d'une cérémonie grandiose qui s'est tenue, nous sommes ce lundi, et dans le Royaume-Uni.
L'invité.
Notre invité est Mgr Zachary Massimango Katanda, évêque de l'église anglicane diocèse de Kindu. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2026-2027, il revient sur les préparatifs engagés dans les établissements scolaires et les ventes de son diocèse. Il évoque notamment les colloques des enseignants organisés récemment à Kindu afin de renforcer les capacités du personnel éducatif et d'assurer une meilleure préparation de la prochaine année scolaire. Mgr Zachary Massimango Katanda s'entretient avec Florence Kizalunga.
Zachary Katanda Massimango, bonjour.
Bonjour.
Pendant que les élèves sont en vacances, vous, église anglicane, dans le réseau de vos écoles, vous réunissez les enseignants. Pour quel objectif?
Merci, c'est une meilleure question. Vous savez, en tant qu'évêque, je reçois les rapports des chefs d'établissement. Nous avons constaté qu'il y a un problème sérieux. D'abord, des collaborations entre église et école. Et ensuite, la capacité aussi de nos enseignants et de nos élèves n'était pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Alors, nous avons jugé bon, avant la rentrée scolaire prochaine, d'inviter et les chefs d'établissement et aussi les enseignants pour qu'on puisse discuter ensemble, trouver un cadre où nous pouvons échanger pour améliorer les conditions d'études dans nos écoles.
L'on dirait que c'est une façon pour vous d'affûter vos armes pour la nouvelle année qui va bientôt commencer.
Justement, c'est ce que nous voulons, puisque vous savez, souvent, les contacts physiques, ça contribue beaucoup. Les gens me voient, je parle, on discute et on délibère ensemble, ça peut amener des fruits pour l'année prochaine.
Qu'est-ce qui a été considéré comme faiblesse pour l'année passée et quelles sont les propositions pour amélioration des conditions d'enseignement pour l'année prochaine?
Oui, les problèmes étaient surtout au niveau d'études des élèves que les parents nous confient dans nos écoles. Nous avons constaté que souvent nous ramassons beaucoup d'élèves à qui nous n'avons pas vraiment l'état de les suivre pour que nous puissions produire des élèves capables de défendre leurs titres. Alors, nous avons vu, par exemple, il y a dans l'expression, par exemple, française, il y a aussi dans la rédaction. Les inspecteurs se lamentent beaucoup dans la dissertation. Alors, nous ne devons pas laisser sans pour autant faire quelque chose pour que nous puissions améliorer cet état de choses-là. C'est pourquoi nous sommes dit, cette année ici, nous allons tout faire pour que nous puissions renforcer la capacité de nos enseignants.
Alors, vous venez de renforcer les capacités de vos enseignants. Qu'est-ce que les enseignants doivent faire pour l'année scolaire édition 2020? 2026-2027 au sein des écoles du réseau anglican?
C'est une bonne question aussi, puisque les enseignants sont là pour l'apprentissage. C'est-à-dire, ils doivent se préparer sérieusement pour que les élèves, que le parent et la société les confient, qu'ils soient dans de bonnes conditions d'apprentissage. Donc, à ce moment-là, ils doivent préparer leurs cours, ils doivent aussi suivre les instructions étatiques et aussi collaborer avec l'Église pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour améliorer les conditions d'études de nos enfants.
Dans l'entame de ces assises, vous avez dit que dans les écoles anglicanes, ne doivent pas être considérées comme des poubelles où les élèves chassés de n'importe où doivent se réfugier. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Je voulais dire que souvent les gens ont des préférences des écoles. Souvent ils voient des bâtiments, aussi l'équipement, mais une attention n'est pas vraiment attirée sur la qualité d'enseignement et des enseignants. C'est ainsi que nous voulons renforcer plus la qualité d'enseignement pour que ce soit les normes pour juger des écoles anglicanes, pas les bâtiments seulement. Nous voulons introduire le système des concours. Souvent les gens ont peur des concours puisque l'État souvent ne paye plus le frais à certaines écoles et les écoles profitent pendant les inscriptions pour avoir un peu d'argent. Mais nous allons introduire les concours pour qu'il y ait une sélection. Les concours peuvent nous permettre de fixer nous avons combien d'enfants qui sont capables d'étudier chez nous.
Est-ce un espoir pour les parents ou bien une garantie pouvant dire que l'année qui commence d'ici septembre, ça sera meilleur pour leurs enfants qui étudient au sein des écoles anglicanes?
Ne pas dire que c'est une garantie, mais c'est un espoir, puisque nous allons faire tout ce que nous avons comme possibilité afin que nous puissions ensemble avec les enseignants et les chefs d'établissement contribuer réellement à amener, à renforcer les capacités et des enseignants et aussi faire monter le niveau de nos enfants dans nos écoles.
Vous avez pensé aussi aux infrastructures et aux équipements de vos écoles pour la meilleure qualité de l'enseignement, comme vous dites?
Bien sûr que oui. L'année passée, on a construit 7 nouvelles écoles. On a équipé en bas et en manuel scolaire. Et d'ailleurs, on a introduit aussi les cours en ligne pour les enseignants de primaire, en fait, d'entrer dans les sites internet de l'éducation nationale pour télécharger des modules proposés par les inspecteurs. Tout ça, nous l'avons fait et on va continuer à le faire.
Zachary Katanda Masimango, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame la journaliste.
À 13h passées de 22 minutes, nous sommes à Mikelenge dans la ville de Kindu. C'est ici qu'est prend fait ce journal de midi supervisé par Jean Gandou dans une coordination de Élisée Chikota, mise en nom de Diedoni Nyangasa dans une présentation de Ronéline Tibonera Idiamine, un journal que vous pouvez réécouter sur www.radiookapi.net.